Troisième émission aujourd'hui consacrée à l'accueil de la souffrance. Pourquoi donner l'illusion que tout va bien à l'extérieur alors que c'est là le chaos à l'intérieur? Pourquoi donne-t-on le change? En quoi est-ce une protection pour continuer à vivre au quotidien? Ce sont les questions que nous abordons aujourd'hui dans cette troisième émission avec le père Jean-François Noël, prêtre et psychanalyste.
Psy Espie, Sophie Lecomte, avec le père Jean-François Noël.
Bonjour Père Jean-François.
Bonjour Sophie.
Alors je rappelle que vous êtes prêtre du diocèse d'Aix-et-Arles, également psychanalyste, et on parle de donner le change. Donc on rencontre parfois ces personnes qui traversent des périodes d'intense souffrance, et pourtant cela semble insoupçonnable. On dit qu'elles donnent le change. Comment expliquer une telle différence entre ce qui est vécu intérieurement et ce qui est rendu à l'extérieur?
J'écoutais encore de nouveau, comme j'en parlais dans la précédente émission, cette fille qui racontait sa prise d'otage pendant une semaine au Congo. En fait, le début, ça a été vraiment... Enfin, elle avait tellement fantasmé de rencontrer sa famille, de prendre un bain, que ça a été d'explosion de joie, elle a fait la fête. Et puis, 15 jours après, elle s'est retrouvée... pendant sa prise d'otage, elle a beaucoup tenu en pensant à ces événements heureux qu'elle avait connus ou qu'elle vivrait après, parce qu'elle espérait, n'était pas sûre, être libérée, bon bref. Et lorsqu'elle les a vécues, évidemment, ça a été l'explosion. Et puis, 15 jours après, tout s'est effondré. Elle allait encore plus mal. Bon, elle était très discrète à la radio sur ce sujet. Et c'est assez classique qu'au début, on est survivant, quoi. On est des survivants, donc on goûte à la vie qui revient, quoi. Et puis, en fait, le traumatisme s'est inscrit, parce que ça, comme je l'ai souvent dit à cette antenne, l'inconscient, c'est une mémoire exacte. Il n'oublie rien. Voilà. Donc, c'est ça qui est compliqué, enfin, et magnifique avec l'inconscient, c'est que tout ce que nous avons vécu est rangé, indexé dans notre, comme un disque dur d'ordinateur, même si la métaphore est un peu simpliste. Mais en fait, nos souvenirs sont tous, refoulés au bon sens du terme. C'est ça que nous pensions avant, et des psychologues américains, surtout dans après le retour des soldats américains qui revenaient de la guerre du Vietnam, se sont aperçus que c'était des traumatisés qui vivaient des traumatismes des symptômes post-traumatiques terribles. Ça, dans les films, on a souvent la rencontre avec tel ou tel ancien de la guerre et qui effectivement sombre dans l'alcool, la drogue, etc. Bon. Alors ce qui fait que ça a fait beaucoup réfléchir à un certain nombre de psychologues sur la manière dont ils avaient plutôt été écoutés et soignés, etc. Mais on pensait un peu naturellement que en parlant, eux c'était plutôt des analyse transactionnelle, donc c'est souvent en groupe que tous ces vétérans pouvaient parler entre eux, etc. Ça suffisait d'en parler. Puis en fait, les travaux récents montrent que notre cerveau fonctionne un peu différemment et qu'il y a cerveau droit et cerveau gauche. Enfin, je rentre pas dans le détail parce que je ne suis pas très au point à ça, mais je sais que avant, on pensait plutôt qu'il y avait un refoulement et qu'il fallait lever le refoulement pour que le souvenir, que quand ils donnaient le change, parce qu'au début, ils ont plutôt donné le change, ils arrivaient, ils étaient médaillés, accueillis par la ville dont ils étaient l'origine, et puis ensuite, etc. Et puis, en fait, le fait d'en parler ne suffisait pas. Le traumatisme, en fait, le symptôme, continuait de courir souterrainement en eux, quoi. Donc,
est-ce que c'est une bonne chose de donner le change, selon vous?
C'est ni une bonne chose ni une mauvaise chose, c'est quand même...
C'est un cautère sur une jambe de bois?
Non, c'est pas ça, c'est que c'est la défense de vie pour quelqu'un qui est traumatisé, il cherche tous les moyens de rester vivant. Donc en fait c'est...
C'est un moyen de survie?
C'est un moyen de survie, oui. Et que ça signe que c'est pas le moment pour l'instant. Il y a des gens, après le Bataclan, il y a des gens qui sont partis travailler le lendemain. Et puis se sont effondrés un mois après. Parce qu'en fait, pour l'instant, il n'y avait que ça. Enfin, ils ne voyaient pas quoi faire d'autre.
Plutôt que de cogiter tout seul dans leur coin, il valait
plutôt
mieux
que de bourrer du noir,
que le quotidien reprenne.
Voilà, et puis en fait, ils s'aperçoivent que ça a tenu un moment, puis après, ça ne tient plus. Donc, ce n'est pas ni bien ni mal, c'est que l'homme est tel qu'il tente de survivre. Il se raccroche à ce qu'il sait faire d'abord, et puis ensuite, il est peut-être rattrapé après. Donc on pensait que de rentrer dans des groupes de parole ou dans une thérapie, d'en parler suffisait à lever, en tout cas à désamorcer. La bombe, le nocif du souvenir. Bon, c'est pas vraiment le cas pour beaucoup de cas où, en fait, le souvenir, le traumatisme en tant que tel, quel qu'il soit, et je pense aux enfants dont je parlais, c'est-à-dire les enfants de la guerre, le traumatisme est tellement enfoui qu'il est enkysté, en quelque sorte. Et que donc, en fait, alors la personne ne donne pas le change, c'est qu'elle a toujours vécu comme ça.
On dit souvent qu'on a un enfant en nous, qu'on a besoin de consoler, de réconcilier, comme s'il y avait plusieurs personnes qui cohabitaient.
Voilà, c'est ça. Donc,
nous, enfants, nous, adolescents, vous voyez où...
Alors, de fait, cette proposition thérapeutique est de reprendre relation, de renouer une relation avec l'enfant qui a eu peur.
Pour transformer des souvenirs. On voit qu'il y a tout un mouvement aussi actuellement dans la psychologie de
c'est
vouloir
pas transformer les souvenirs que de rassurer que l'adulte, ce qu'ils appellent la partie adulte et la partie enfant, que l'adulte d'aujourd'hui qui a donné le change entre guillemets, c'était pas intentionnel, il a pas voulu tromper le monde qui l'entourait, mais il a tenté de survivre simplement, mais il a gardé en lui un enfant recroquevillé dans un coin.
Et le travail thérapeutique, comment il se mène à ce moment-là ?
Alors, le travail thérapeutique, ça va consister à ce que l'adulte, en face du thérapeute, et grâce au thérapeute, renoue une relation avec l'enfant, comme un enfant qui a peur en pleine nuit, si vous voulez, lui tend la main et le console.
Du coup, ça va être de l'imagination ?
C'est drôle que vous disiez ça comme ça,
parce que c'est pas quelque chose qui s'est forcément passé, mais c'est...
Ah si, c'est quelque chose qui s'est passé. En tout cas, c'est ce que l'enfant que vous étiez a vraiment vécu. Après, vous savez pas tout, vous l'adulte de l'enfant que vous étiez et qui a vraiment vécu ça. Mais lui, ce qui est vrai, et c'est très intéressant, c'est pas tant le détail, parce que ça c'est des psys... pour coiffeurs, ça. Enfin, je suis pas contre les coiffeurs. Donc des psys, voilà, c'est des psys magazines, ça. On pense que quand on raconte exactement le traumatisme, on ne va pas souffrir. C'est pas vrai. Le problème, c'est les émotions et ce qu'on a ressenti.
Est-ce qu'on peut toujours le raconter, d'ailleurs, si c'est trop traumatisant ?
Non. Comment voulez-vous raconter un bombardement ? Comment voulez-vous raconter un kidnapping ? La fille qui était en otage, elle a des détails de la grotte où elle était enfermée avec ses deux collègues. Elle a pas tout. Vous rappelez l'ennui.
Alors qu'est-ce qu'on...
Alors c'est d'une part la relation qu'on a avec le thérapeute, et je reviens à cette bienveillance, cette chasteté, cette bienveillance, chasteté, et il m'en manque un troisième, mais ça va me revenir, qui permet une relation qui est vraiment dans laquelle je me sens à l'abri. Et cette relation thérapeutique va permettre à l'adulte que je suis devenu, enfin si je suis le patient, d'aller chercher l'enfant et de converser avec lui. Donc c'est pas en expliquant à l'enfant, on n'explique pas à l'enfant que la guerre c'est terrible, c'est les hommes, que l'orage, oui ça fait beaucoup de bruit, que je sais pas moi comment ils ont vécu ça à La Réunion lorsque le cyclone est passé, mais les parents ont dû consoler leurs enfants qui étaient morts de peur. Le problème c'est pas d'expliquer que les cyclones c'est une dépression orageuse terrible qui peut dévaster, etc. C'est qu'il faut consoler et sécuriser l'enfant. Et donc, on va apprendre à aller chercher l'enfant. Alors, au début, ça paraît un peu artificiel, un peu bizarre de parler à soi enfant. Mais pourquoi pas ?
Ça peut faire partie d'un travail thérapeutique.
Ah oui, absolument.
Et ces différentes, étapes psychologiques qui vivent en nous, est-ce que c'est ce qu'on appelle la dissociation ou pas du tout ?
Alors, la dissociation, c'est quand justement, ça a tellement été enfermé que c'était plus que refoulé, c'était pas accessible. Le seul accès qu'on ait, c'est qu'à un moment donné, il y a un mal-être qui, malgré tout, traverse la vie et qui fait que quelque chose ne va pas alors que tout devrait aller bien, par exemple, ou je sais pas, il y a un symptôme qui traverse toute cette épaisseur psychologique et qui provoque, je sais pas quoi, moi, un diabète, voire une maladie plus grave, ou et puis tout d'un coup on s'aperçoit mais que que je trimballe un enfant très souffrant, douloureux. Ça peut être aussi une naissance. Donc, il va falloir reprendre la conversation.
Et comment on explique parfois aussi que des personnes en souffrance aient des difficultés à trouver un thérapeute et doivent essayer plusieurs afin de pouvoir trouver le bon thérapeute ? Comment on explique que ça soit pas plus automatique finalement, puisqu'on est face à une personne qui est un professionnel de l'écoute ?
Parce que
c'est une question de personnalité uniquement ?
Non, c'est une question d'accord. D'accord, d'accord profond, c'est-à-dire ce que j'ai parlé d'écoute.
J'avais bien compris. Hein.
Oui. Non, mais c'est pas pour vous dire ça. De résonance. Souvent, les patients me disent, les patients avec qui ça a marché, je sais pas, qui me disent au bout d'un moment, ce qui m'a déterminé à revenir avec vous, c'est que vous m'avez cru. J'ai pas forcément cru à leur histoire, j'en sais rien d'ailleurs, mais j'ai cru à leur souffrance.
Et à l'inverse, vous en avez qui vous ont déjà dit qu'ils avaient l'impression que vous ne les compreniez pas ?
Ah oui.
Et on s'en rend compte assez vite ?
Oui.
Et il vaut
d'ailleurs,
mieux...
si vous avez, il ne s'est rien passé, n'hésitez pas à ne pas revenir. C'est pas votre problème. Ça ne se décide pas. On n'est pas un bon thérapeute pour tout le monde.
Et ça n'a rien à voir avec des questions de personnalité, d'entente ? C'est que selon vous...
C'est vrai que j'ai écouté quelqu'un qui était homophobe et raciste. J'ai pas tenu tout le temps. J'ai craqué.
Merci beaucoup, Père Jean-François Noël, pour votre éclairage. Alors, je rappelle que vous êtes prêtre du diocèse d'Aix-et-Arles, également psychanalyste, et vous pouvez retrouver cette émission sur rcf.fr ainsi que les deux premières émissions sur toutes les plateformes de podcast. Et la semaine prochaine, ce sera notre dernière émission consacrée à l'accueil de la souffrance et nous parlerons de la place de l'accompagnement spirituel. Belle semaine à l'écoute de RCF.
Sophie Lecomte avec le Père Jean-François Noël.